Yo yo yo.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour chers auditeurs.
C'est l'heure de l'atelier sur Prune.
Fallait juste utiliser ton prénom.
Un espace sonore dédié aux créations, émissions et fictions. Réalisé dans le cadre de nos ateliers radio.
La musique du matin au soir.
C'est ça qui vient d'enregistrer pas.
L'émission où l'égalité est en première place.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans l'émission 50-50 sur Prune 92 FM. Dans cette émission, nous allons parler des stéréotypes liés aux filles. Car il existe encore des clichés à l'école, dans les films, dans le sport et souvent par rapport à leur corps. Avec Nina, Élise et Lilou, nous avons décidé de parler de ce sujet qui nous concerne. Avec Naïma et moi, Zoé, nous sommes vos animatrices pour cette émission. Nous allons commencer par écouter un micro-trottoir. Nous avons posé des questions aux habitants de Châteaubriant sur les stéréotypes. Vous entendrez leur avis. Ensuite, Lilou va expliquer l'origine des stéréotypes dans sa chronique. Nina, Élise et moi, nous allons vous présenter les différents clichés qui circulent à l'école, que ce soit sur les vêtements ou les activités dans la cour de récré. Lilou revient avec une interview sur la mallette des petits débrouillards, une mallette pour lutter contre les stéréotypes. Et pour finir, il y aura un reportage présenté par Naïma sur Giovanna Chauvin-Rossi et son exposition « Pierre, feuilles, ciseaux » à la Galerie 29 de Châteaubriant. Ces œuvres représentent des femmes au sport. Et tout de suite, on écoute le micro-trottoir.
Trouvez-vous normal qu'on parle moins des sports féminins ?
Oui, il y a certains sports féminins qui ne sont pas forcément évoqués à la radio. Je pense à la danse ou au patinage artistique. Et j'aimerais bien qu'on en parle plus, parce qu'on parle beaucoup du foot.
Ok, merci. Trouvez-vous normal que l'on parle moins du sport féminin ?
Je trouve ça pas normal. Non, c'est pas normal. Non. Parce que je pense que les femmes ont autant le droit de se montrer, de compétir, de faire de la compétition que les hommes.
Ouais. Est-ce normal que l'on parle moins du sport féminin ?
Non, je ne trouve pas ça normal.
Pourquoi ?
Parce qu'on a le droit aussi. Hein. On est pareil, hein, moi je pense. Avec les hommes, c'est la même chose. Donc, ouais. Faut mettre aussi en avant le sport des femmes.
En 2015, 20% des Français pensaient que les femmes devaient rester au foyer. Vous en pensez quoi ?
Ça a changé maintenant. Moi, je pense que non, tout ça, c'est des conneries. Hein. On doit avancer.
Est-ce que vous trouvez ça normal qu'en 2015, 20% des Français pensaient que la place de la femme était dans un foyer ?
Non, bien sûr. On a le droit de faire autre chose que de rester à la maison.
Merci pour votre réponse.
En 2015, 20% des Français pensaient que la place des femmes était à la cuisine. Qu'en pensez-vous ?
Eh bien, c'est triste. Et je pense que ça évolue en ce moment. Enfin, dans les couples actuels, enfin, moi personnellement, c'est plus le cas. Le partage des tâches se fait bien à la maison. Mais il y a des familles où c'est encore comme ça, malheureusement, et c'est bien triste.
C'est à la femme de choisir ce qu'elle a envie de faire. Si elle a envie de rester chez elle, il n'y a pas de souci. Hein. Elle fait ce qu'elle veut, elle est libre. Comme les hommes, elle fait ce qu'elle veut. Hein.
Pas du tout, parce que moi, mon mari cuisine autant que moi, donc on cuisine tous les deux.
Je pense que la femme a le droit d'être à l'extérieur, comme tout le monde, comme les hommes.
Je pense que c'est tout à fait faux. Les femmes ont le droit, comme les hommes, d'aller travailler, mais pas que à la cuisine et élever les enfants.
C'est quand même énorme, 20% des Français qui... Enfin, je trouve que c'est quand même énorme. Et en plus, c'est récent. Enfin, je trouve que c'est pas quand même normal. Non, et puis la place de la femme, enfin, elle n'a pas de place. Elle n'a pas de place, si tu veux. Elle est au boulot ou elle travaille. Et c'est tout à fait logique Et puis savoir un travail et pas forcément au foyer.
C'était le micro-trottoir réalisé à Châteaubriant.
Merci.
Et maintenant, c'est à Lilou. De quoi tu vas parler dans ta chronique ?
Aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine des stéréotypes.
50-50 sur Prune 92 FM.
J'entends souvent parmi mes camarades, surtout chez les garçons, que les femmes, c'est à la cuisine ou que les femmes ne savent rien faire. Et je me demande bien pourquoi ils disent encore ce genre de choses à notre époque. Mais au fait, que signifie ce mot stéréotype ? Son origine vient du grec stéréo, qui veut dire dur, solide, et de typos, qui désigne empreinte, marque. Ce qu'on peut dire, c'est que ces stéréotypes, ils sont tenaces. Les stéréotypes sont des idées ou des opinions qui ne sont pas toujours vraies et qui peuvent à force être discriminants. Pourtant, ils sont utilisés et ils sont répétés et fabriqués, parfois sans le vouloir. Et comme le désigne son origine grecque, les stéréotypes restent dans le temps. Je me suis demandé pourquoi certains garçons de ma classe pensent encore ça, d'où ça vient. Prenons l'exemple des femmes au foyer. Ce stéréotype existe toujours. Si on prend l'exemple du journal Le Parisien, qui date de 2015, encore 20% des Français pensent que la femme doit rester à la maison. Mais pourquoi 20% des Français pensent encore ça ? Si on remonte dans le temps, on remarque que les femmes étaient souvent représentées dans la cuisine, avec les enfants. C'est ce qu'on montre une archive d'un magazine intitulé « Foyer de France » qui date de 1943 dans l'histoire. Il est vrai que les femmes travaillaient souvent à la maison, mais certaines exerçaient aussi dans les usines. C'est notamment arrivé à la révolution industrielle au XIXe siècle. Les femmes qui étaient issues de milieux pauvres étaient ouvrières, mais on entend toujours ces stéréotypes liés aux femmes. Et les filles sont beaucoup jugées par rapport à leur travail, ou encore à leur corps, leur tenue. On les critique sur leur physique, leur forme ou la taille de leurs vêtements. On appelle ça le sexisme. Et même s'il y a des avancées, nous allons encore devoir nous battre, nous les jeunes d'aujourd'hui, pour lutter contre tous ces clichés. Même si ces préjugés résistent dans le temps, on peut heureusement voir aujourd'hui qu'il y a des avancées, des associations, des célébrités prennent la parole et dénoncent ces préjugés sexisme. Mais ça, on en parle avec Zoé, Nina et Élise. Elles se sont intéressées aux stéréotypes à l'école.
Merci Lilou, et tout de suite, Nina, Élise et Zoé prennent le micro. Elles vont vous partager leur billet d'humeur. Bonjour les filles.
Bonjour.
50-50 sur Prune 92 FM.
Aujourd'hui, nous allons vous parler des stéréotypes à l'école, dont ces trois grands sujets qui sont les remarques sur les vêtements des filles,
les activités sur la cour de récré qui ne sont pas toujours mixtes,
et les stéréotypes liés aux matières scolaires.
D'ailleurs, selon une étude allemande, Süddeutsche Zeitung, les shorts des filles âgées de 10 ans ou plus sont 6 cm plus courts que ceux des garçons. Trouvez-vous ça normal ?
C'est une question sur est-ce que vous trouvez ça normal que, que les shorts des filles soient 6 cm plus courts que les shorts des garçons ?
Non.
Et pourquoi ?
Question d'égalité.
Je sais pas, oui, si elle est plus petite, peut-être, oui.
D'accord, merci.
Non, c'est pas normal, mais dans la société d'aujourd'hui, les filles sont beaucoup plus jugées par rapport à la taille de leurs vêtements, malheureusement, que ce soit les t-shirts ou les shorts.
Dans la même étude, il est prouvé qu'un t-shirt sur deux dans le rayon des filles est rose. Des conséquences ? Oui. Dès le plus jeune âge, la mode bombarde les filles et les garçons de stéréotypes auxquels ils vont devoir se conformer. Mais il n'y a pas que les vêtements qui sont concernés. Les activités dans la cour de récré aussi. Par exemple, dans notre collège, si une fille veut jouer au foot, elle peut être découragée par certaines remarques, dont ce stéréotype qui court toujours, comme quoi le foot est plus pour les garçons. Mais de plus en plus de filles s'essayent à ce sport, pour peut-être devenir des championnes de demain, comme Eugénie Le Sommer et Wendy Renard.
Il existe aussi des stéréotypes autour des matières scolaires du style « Ouais, t'as des bonnes notes en français, c'est parce que t'es une fille. C'est normal que t'y arrives pas en sport, t'es une fille. »
Stop ! Ces clichés sont la plupart du temps faux.
De nos jours, ces stéréotypes existent toujours,
Mais certaines personnes essayent d'y lutter, comme Alexia et Adèle, qui ont mené des débats dans leur collège, dans l'Indre, et ont gagné le concours « Non au sexisme ». Alexia a d'ailleurs dit qu'elle rêve qu'un jour, chacun puisse être libre d'être qui il veut, d'aimer qui il veut et qu'il n'y ait plus de limites.
Merci les filles pour cette chronique. On fait une pause musique.
Tu m'as dit avec assurance, c'était ta dernière chance. J'ai pensé aux aspects pratiques, les vacances à Dubrovnik. Deux jours et demi, j'avais toujours pas saisi. On peut pas me quitter, donc ça veut pas rentrer. Joueur je suis, douleur je fuis, je fus j'étais. Si tu revenais, joueur j'étais, douleur j'y suis, je fuis je t'ai, je ne réponds plus. Affaires, tu as repris, petit placard est devenu grand. La chambre et le quartier, je fuis, je m'oublie dans le petit écran. J'ai une boule au ventre à chaque fois que je rentre par l'arrière de la maison. Se souvient-elle de ton nom? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? Joueur, je suis, oh douleur, je suis. Je fus, j'étais, et si tu revenais. Joueur j'étais, douleur j'y suis. Je fuis, je t'ai, oh, je ne réponds plus. Joueur, je suis, douleur, je fuis. Joueur, je fus, douleur remue. À notre fin j'étais mal préparé. À la gare je suis resté sur le quai. Sifflet de ton train qui part, frisson inexpliqué. Si j'avais un message à remettre entre tes mains ouvertes, ça dirait, j'ai changé cet été, mais tu pourras pas en profiter. C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? Joueur, je suis, oh, douleur, je fuis. Je fus, j'étais, oh, ce passé n'est plus. Joueur, je fus. Envie d'un puits, oh, tout ce que je fuis. Joueur, je suis. Douleur, je fuis. Joueur, je fus. Douleur, remue. C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde. Faut-il ce genre de destin?
On vient d'écouter la chanteuse Stéphane avec le morceau Douleur, je fuis. Passons maintenant à l'interview de Marie Breda sur la mallette pédagogique des petits débrouillards et c'est avec Lilou.
Maintenant, nous allons voir comment on peut se comment on peut combattre les stéréotypes avec Marie Breda, chargée de la vie associative au centre socio-culturel intercommunal de Châteaubriant-Derval. Marie va nous présenter la mallette des petits débrouillards, une mallette pédagogique pour déconstruire les stéréotypes. Marie, vous êtes en lien avec les créateurs de la manette, les petits débrouillards. Tout d'abord, qu'est-ce qu'elle contient cette manette ?
Alors, du coup, effectivement, je suis en lien avec l'association Les Petits Débrouillards qui a conçu et co-conçu avec la fondation Turam une mallette pédagogique qui comporte des animations, en fait, pour se poser des questions sur trois thématiques. Donc, le genre, les hommes, les femmes, l'interculturalité et puis la fabrique des stéréotypes. Donc, cette mallette, en fait, elle est faite pour être utilisée par des animateurs auprès d'un public et se poser des questions sur ces trois thèmes-là.
Pourquoi cette mallette des petits débrouillards a été créée ?
Eh bien, elle a été créée pour passer par la démarche scientifique et se poser les questions sur comment est-ce que se construisent les discriminations, les préjugés. Et voilà, c'était l'idée de pouvoir travailler sur le vivre ensemble.
Comment cette manette, elle peut aider à déconstruire les stéréotypes ?
Alors, bah justement, en se posant des questions, déjà en apprenant à se connaître, c'est-à-dire qu'on apprend déjà que le cerveau humain, pour aller vite de manière générale et quotidienne, on a besoin de pas dépenser trop d'énergie. Et donc, quand on rencontre quelqu'un, par exemple, on a tout de suite une première idée qui va se faire parce qu'on va généraliser par rapport à une information qu'on a déjà eue par quelqu'un d'autre, une première rencontre qu'on a déjà faite ou sa propre culture. Et en fait, ça, c'est tout à fait normal. Il faut qu'on s'appuie là-dessus parce que sinon, on prendrait beaucoup de temps dès qu'on rencontre quelqu'un à trier les informations. Et donc, du coup, déjà, on sait qu'on va d'abord stéréotyper les gens parce que c'est naturel et on le fait tous. Et ensuite, la question, c'est de savoir à partir de quel moment on a des préjugés. Parce que le stéréotype, au départ, il peut être positif ou négatif. Donc, peu importe. Mais si jamais il est négatif, par exemple, ça peut entraîner préjugés et puis des discriminations. Et donc, ce qu'il faut, c'est savoir pourquoi est-ce qu'on a des préjugés négatifs, comment est-ce qu'ils sont construits, et puis essayer de lutter contre.
Qui se cache derrière les petits débrouillards ?
Alors, derrière les petits débrouillards, c'est une équipe de scientifiques, et puis il y a des salariés, il y a des bénévoles. Voilà, c'est des personnes qui sont engagées dans des démarches d'éducation populaire, qui veulent participer à la création de l'esprit critique, au développement de l'esprit critique chez les gens.
Comment on se sert de cette manette ?
Alors du coup, on s'en sert auprès d'un public. En fait, il y a plein d'outils, il y a des images, il y a des questions. Et puis, on va les utiliser auprès d'un groupe plutôt pour voir un petit peu comment chacun réagit justement. Voilà.
Cette manette va être présentée au centre socio-culturel de Châteaubriant. Qui peut utiliser cette manette pédagogique ?
Eh bien, toutes les personnes qui sont en contact avec du public peuvent l'emprunter et puis l'utiliser avec justement leur public pour se poser ces questions-là.
Merci Marie Breda d'avoir été avec nous. Si vous êtes bénévole ou que vous travaillez dans une association, vous pouvez découvrir la manette pédagogique le lundi 21 novembre à 14h au CSCI de Châteaubriant.
Merci Lilou.
Merci à Marie et Lilou pour l'interview. Maintenant, plongeons dans l'exposition avec Giovanna Chauvin-Roussy.
50-50 sur Prune.
Ouvert le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Est-ce que vous pouvez nous dire un tableau que vous aimez bien en particulier et un peu nous expliquer de quel tableau, enfin, qu'est-ce que vous aimez, c'est le tableau, qu'est-ce qu'il explique, qu'est-ce qu'il représente ?
Alors il y en a plusieurs. Alors déjà, pour revenir un petit peu, l'exposition de Giovanna Chauvin-Roussy s'intéresse surtout à la visibilité des femmes dans le sport, puisque bien souvent on a plus l'habitude de voir des hommes en train de faire du sport, et aussi aux souvenirs d'enfance liés au sport. Et ce tableau-ci, qui s'appelle « Copains de camping », illustre bien cette idée-là, que le sport, avant tout le côté compétition, est d'abord un jeu que, quand on est enfant, permet de se faire des amis. Et là, d'ailleurs, ce qu'on peut voir sur ce tableau, on peut voir des enfants qui sont en train de jouer à la balle dans un camping. Et c'est un tableau qui est réalisé essentiellement au stylo bic, puisque c'est une des techniques de prédilection de l'artiste. Donc elle alterne entre plein de petits traits qui forment un peu des spirales, donc un fond décoratif un peu proche du pointillisme, et puis également des surfaces très colorées, donc des aplats où là ça prend beaucoup plus de temps.
Nous sommes à l'exposition Pierre Feuille-Ciseaux dans la galerie 29 à Châteaubriant. Nous sommes avec Giovanna Chauvin-Roussy. Bonjour Giovanna.
Bonjour.
Vous êtes artiste et votre travail est sur la visibilité du corps des femmes dans le sport. Pourquoi vous êtes-vous intéressée à ce sujet ?
Alors en fait, moi, cette thématique, ce sujet, ça a commencé quand j'ai fait des études du coup aux Beaux-Arts d'Angers. Et en fait, j'ai fait un constat quand je visitais plusieurs expositions, même dans mes recherches du coup pour mon mémoire. Et le constat, c'était que quand on parle de sport dans l'histoire de l'art, c'est la plupart du temps, c'est des artistes hommes qui s'accaparent ce sujet, ce thème, et aussi que lorsque le sport est représenté, c'est souvent sous des traits masculins. Et en fait, les femmes sportives sont inexistantes ou ont des rôles très secondaires, comme par exemple, ou très stéréotypés. Ça va être soit d'être la mère qui va regarder son enfant faire un match de foot, par exemple, ou ça va être aussi la femme sportive vue comme un trophée. Par exemple, elle va être représentée sous des traits, par exemple, comme la Barbie, ou aussi une femme, justement, blonde, gros seins, grosses fesses, blanche, vraiment le corps très stéréotypé.
Vous exposez beaucoup de maillots de foot sur lesquels il y a des dédicaces. Pouvez-vous me décrire cette œuvre ? Pourquoi vous avez choisi cet objet des maillots de foot ?
Alors en fait, dans mon travail, j'aime bien parler justement de la culture populaire et reprendre en fait des objets qui en font partie. Par exemple, il y a le magazine Panini. Du coup, j'ai repris aussi ce concept et justement les maillots de foot. En fait, l'idée, moi, c'était à peu près à l'âge de quand j'étais au collège ou même en primaire, je faisais du foot. Et du coup, je participais au tournoi de football féminin. Et avec mes copines, du coup, on avait chacune un maillot qui était vierge. Et du coup, on venait inscrire le numéro, notre numéro et notre blaze aussi. Moi, du coup, c'était Joe. Et on venait dédicacer justement comme les grands sportifs hommes sur les maillots du coup des fans. Et j'ai voulu reprendre ça en prenant du coup que des numéros 10. Parce qu'il faut savoir que dans le foot, le numéro 10, c'est assez symbolique, enfin, c'est très fort. Par exemple, Zidane, Mbappé, tout ça ont le numéro 10. Et je suis venue, du coup, inscrire ce que nous, on marquait, du coup, sur nos t-shirts à nous. Et c'est vraiment les vraies dédicaces. Enfin, vraiment ceux qui sont présents sur les maillots. Bon, des fois, j'ai un petit peu honte parce que voilà, hein, c'était une époque, hein, j'assume. Mais surtout, c'était pour montrer qu'en fait, moi, de ma génération, et je trouve encore aujourd'hui, même si ça a évolué, et même si les sportives femmes sont, justement, les footballeuses sont plus représentées, et bah, quand on parle d'icône, ça va être tout le temps une icône masculine. Par exemple, bah, Mbappé, Benzema, etc., Zidane. Voilà.
J'ai une amie qui souhaitait s'inscrire dans un club de football, mais les garçons lui ont dit que c'était pas un sport de filles. Giovanna, est-ce que dans votre exposition, vous voulez dénoncer ce genre de stéréotypes ?
Bah oui, bien sûr, parce que justement, moi, je suis partie de mon expérience personnelle. Et quand j'étais plus petite, j'étais la seule fille de mon équipe, en tout cas en primaire. Et on m'a bien dit, non, t'es une fille, tu sais pas courir. Du coup, moi, aujourd'hui, je fais plus de foot, mais du coup, j'essaye dans mon métier à faire changer ça, et justement en représentant des femmes, des filles aussi qui jouent au foot, mais qui jouent aussi à d'autres sports, et qu'elles ont tout à fait le droit, et qu'il ne faut pas genrer un sport, et le sport devrait être accessible à toutes et tous. Que ça soit le foot pour les filles, pour les jeunes filles, que ce soit la danse justement pour les petits garçons ou la gymnastique.
Vous parlez des femmes qui ont franchi les règles comme Iori Kon, qui est la première femme lutteuse de sumo. Pourquoi vouliez-vous nous partager son histoire ?
Alors en fait, la jeunesse de ce travail-là, du coup, pour représenter plusieurs portraits de femmes sportives, ça a été Marie Stuart, qui était du coup en fait une reine déchue par la reine Elisabeth Ier. C'était une reine d'Écosse. Et en fait, de ce qu'on sait de son histoire, c'est qu'on lui a coupé la tête et c'est tout. Enfin, c'est vraiment une histoire très tragique. Et sauf qu'en fait, le plus vieux ballon qui date de 1540, il a été retrouvé dans sa chambre. Bon, à la base, à l'époque, c'était pas un ballon comme on connaît aujourd'hui. Hein. C'était une vessie de porc qui était gonflée. c'était très esthétique et très joli. Hein. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas raconter justement d'autres portraits de femmes, un peu comme Pénélope Bajut a fait avec les culottés et d'autres artistes et d'autres écrivaines ont fait aussi.
Elle a découvert que le plus vieux ballon de foot au monde date du XVIe siècle, de 1540, et qu'il a été découvert en fait caché dans la chambre, dans les poutres de la chambre d'enfance de Marie Stuart, qui a été reine d'Écosse. Et il y a plein de nettes qui disent qu'elle aimait beaucoup regarder les matchs de foot, donc l'ancêtre du foot, hein, parce qu'il y avait déjà ce qu'on appelait le mob football. Et donc Giovanna, elle imaginait que ça serait la première footballeuse connue de l'histoire. Donc c'est pour ça qu'elle a repris un tableau connu de Giovanna, oui. Sauf qu'elle a rajouté un ballon de foot. Voilà.
Fait jour, on marche et tout.
Enfin, je me suis dit ne pas se cantonner aussi à l'Europe, enfin, du coup plutôt, mais vraiment à l'international. Et du coup, j'ai voulu prendre comme ça plusieurs femmes, moi, qui m'ont marqué et que j'ai trouvé ultra badass. Je me suis dit, il faut que je raconte leur histoire. Et justement, le sumo qui est un sport effectivement très. Qui est du coup un sport dit très viril et pour les hommes. Et je trouve ça. Je trouve ça très courageux et j'aime beaucoup le parcours justement de Hiroi Kon qui encore aujourd'hui elle est vivante et qui se bat justement pour que le sumo soit un sport plus amateur pour les femmes mais que ça devienne professionnel. J'ai trouvé ça très intéressant et très inspirant en tout cas. Et pour moi, c'était important que ce ne soit pas tout le temps aussi que comme j'expliquais du coup dans tes premières questions, que ça soit pas que des femmes blanches qui soient représentées dans l'histoire de l'art, mais qu'aussi il y ait d'autres femmes, d'autres minorités. Je trouvais ça important pour chacun et chacune puisse aussi se dire elle me ressemble quoi, vraiment. Avoir une lecture plus inclusive, oui.
Merci beaucoup Giovanna de nous avoir reçus.
Merci,
au revoir.
C'était le reportage de l'exposition Pierre, feuille, ciseaux de Giovanna Chauvin-Roussy. C'est la fin de 50-50, merci d'être resté connecté jusqu'à la fin. Retrouvez le podcast sur le site www.prune.net.
C'était 50-50 sur Prune avec
Zoé,
Nina,
Élise,
Lilou,
Naïma.
C'était l'atelier sur Prune. Retrouve le podcast de l'émission sur prune.net.
En tout cas, j'étais très content d'être ici et de partager ce moment avec mes amis.